hein, si on se trompe. Enfin, ça dépend du chemin qu'on prend. Donc, je ne dirais pas que c'est parce que je suis comédien que j'arrive à faire ça. Parce que parce que j'aime bien regarder les gens, j'aime bien les écouter, j'aime bien les... Ouais, et qu'à ce moment-là, quelque chose peut arriver. C'est ce gamin hein, qui me dit... c'est terrifiant, hein, tu me regardes et ça a l'air intéressant, hein, je dis rien, je fais rien. Je dis, bah, là, bon, bah, c'est bien, tu l'entends maintenant. Quoi. J'aurais peut-être pas entendu il y a 20 ans. Mais...
Vous disiez que vous avez, dans des temps un peu lointains, été un petit peu comédien et avoir senti la montée d'adrénaline. Vous la ressentez quand vous êtes, vous, réalisateur et que vous regardez les comédiens au moment du clap? La montée d'adrénaline, et ça vous aide à travailler avec eux?
Ah ouais, mais c'est aussi pour ça que je cadre. Parce que là, d'un coup, voilà, cadrer, c'est pas un truc innocent quand même. Ah. C'est qu'il y a la même montée d'adrénaline, parce que souvent, je me dis, pendant que je le fais, je me dis, mais qui est ce con de metteur en scène?
Vous cadrez avec le casque sur les oreilles?
Oui. Qui est ce con de metteur en scène qui a eu l'idée de faire ce plan aussi compliqué, où je vais me planter, moi, cadreur et tout, et il y a des moments où, en cadrant, il y a des moments qui sont des parts très techniques, des passages très techniques dans un plan, où là, il n'est plus question d'être spectateur des acteurs. Il faut juste savoir que, à partir de ce moment-là, il y a un truc à faire où on va passer le cas dans un tout petit couloir, très, très, ça doit aller très vite, il faut que très vite on passe dans un petit couloir entre les projecteurs en dessous, les micros au-dessus, des trucs. C'est technique. Voilà. Puis c'est compliqué. Et donc pendant ce moment-là, à la fin de cette période très technique, je ne vois plus les acteurs. Et là après, je me sers de la vidéo pour revoir ce qui s'est passé à ce moment-là.
Oui, donc vous relisez quand même. Hein.
Ouais, mais je ne vais pas demander à mon chef-op de prendre le cadre pour faire le plan le plus chiant du film. À partir du moment où je lui ai dit... Non, à partir du moment où j'ai dit c'est moi le cadreur du film, je vais faire que les plans simples... Non, je ne peux pas. Parce que c'est une frustration pour l'opérateur. Caroline Champetier, qui devait venir et qui est revenue, elle vous le dira, Caroline, elle est plein d'autres. Il est hors de question.
Bah, elle vient de réaliser un film et elle a fait l'image...
Oui, non mais même comme chef op, c'est leur précaré de faire le cadre.
En France.
En France, même aux États-Unis, il y en a plein. Il y a plein d'opérateurs qui cadrent parce que c'est vraiment extrêmement agréable de savoir que une espèce de truc de Deus Ex Machina, le plan qui est formidable, et puis surtout. Surtout d'être le premier vrai spectateur du truc. Alors, voilà. Mais pour revenir à cette histoire de direction, il y a cette vieille phrase que tout le monde connaît qui dit diriger les acteurs, c'est d'abord les choisir. Et que voilà. Et ça, puisque ça rentre dans la direction d'acteur, c'est vraiment le plus compliqué. Et c'est là que la difficulté, elle est d'appréciation, mais elle est terriblement humaine aussi. Quand j'ai fait Toutes nos envies, le dernier film, là, j'ai vu la moitié des comédiennes de France et de Navarre pour le rôle principal du film.
Qui a été tenu par Marie-Gilles.
Par Marie-Gilles. Et vraiment, tout le monde. C'est-à-dire que Marion Cotillard, quoi. C'est-à-dire que c'est devenu un truc de ma boule, déjà, et des inconnus. Je cherchais, je m'étais offert le but de me dire je cherche elle, et pas une autre.
Vous n'aviez aucune obligation de la part de la prod ou quoi, de prendre quelqu'un connu.
Je produisais le film.
Complètement libre. Ah
oui. Je faisais ce que je voulais. Voilà. Je prenais qui je voulais la bonne, la juste. Évidemment que. C'est vrai que de prendre Marie Tartampion, ça aurait été évidemment un peu plus compliqué. Que de toute façon, je voyais pas pourquoi, parce que dans toutes les comédiennes du registre, du panorama des comédiens en France, j'allais la trouver. Bon, voilà. Ça s'est très bien passé avec Marie, elle a eu l'intimité avec le rôle et tout, j'étais très content. C'est plus j'en étais.
Choisir un acteur, c'est compliqué de faire des
ouais,
essais.
Alors voilà, quand on a vu. 50 actrices petit nom, pas de nom, grand nom et tout. Et qu'au finalement, au bout de 15 jours d'essai, alors que je leur avais bien dit à toutes, donnez-moi du temps, parce que moi je vais penser, je cherche. Quoi. Et pour elle, et aussi pour les autres rôles, hein, qui n'étaient pas des rôles minorés, il faut prendre son téléphone. Parce que je les essais sur les films, j'y suis tout le temps. Quoi. C'est moi qui les fais, c'est pas. J'ai une directrice de casting qui est quelqu'un de vachement bien, qui est Tatiana Vial, qui est vraiment une fille formidable, mais c'est celle. Je donne la réplique, je suis là, je mouille la chemise, je dis je suis mort le soir. Mais quand au bout de 15 jours, on décide, en son âme et conscience, encore une fois,
il faut trancher.
Il faut prendre le téléphone pour appeler les clients d'un autre. C'est dur, quoi. Parce qu'on sait les attentes que tous et toutes ont. Par rapport à. Voilà. C'est l'envie de faire ce film-là. Et c'est aussi l'envie de faire un film de court. Et c'est aussi le besoin de bosser. Et c'est aussi le besoin d'être dans un film où ils ou elles auront une exposition. Tout. Et quand tu. Voilà. T'es coup de téléphone, ça coûte putain. C'est vraiment. Il faut le décrocher, le gros loup, là, pour appeler tout le monde. C'est compliqué. Mais bon, c'est fait. Et j'y passe 3 jours à prendre des trucs terribles, quoi. Des gens où je sais que j'entends la fille au téléphone qui retient ses larmes et je sais que pour elle c'est un drame. Et prendre des volets de bois vert aussi. Hein.
Ah
oui, parce que c'est le jeu aussi. Merde, je sais pas pourquoi. On me dit toujours que je suis bien puis qu'on prend jamais, quoi.
Est-ce que chacun d'entre vous trois, peut-être, bon, moi je suis réceptrice pas assez souvent malheureusement, il y a dans cette salle des réalisateurs qui font des courts-métrages, peut-être qu'on commence à faire des longs, qui mettent des annonces sur des sites, sur la maison du film court, sur cinéaste.org, voilà, cherche des comédiens, je fais mon cours, machin. On reçoit 178 candidatures, on se dit je suis sérieux, je vais faire un casting. C'est super dur de faire un casting quand on est d'abord débutant, qu'on n'est pas du tout les comédiens qui se présentent. Est-ce qu'on donne des extraits de son propre du scénario qu'on va tourner? Est-ce qu'on donne complètement autre chose? Est-ce qu'on discute? Est-ce qu'on filme? Est-ce qu'on filme pas? C'est chacun ce que chacun fait ce qu'il veut.
Enfin, moi, c'est pas une manipulation.
Non.
C'est le texte. Et qu'est le texte? Et expliquer l'histoire. Et...
Vous filmez, vous, c'est ça?
Bah, évidemment que je filme parce que je me suis rendu compte que l'impression que j'ai, moi, en direct,
oui.
Comme ça, même quand c'est pas moi qui donne la réplique,
c'est pas
du tout la même chose. Que une fois qu'on regarde le truc, c'est fait pour faire un film. Moi. C'est pas fait pour être un spectacle vivant. C'est fait pour être sur un écran, vu comme ça, avec un seul œil qui est l'objectif. Et on voit d'autres choses, quoi. Donc on se dit, mais pourquoi je fais super cette film? Truc là, on y croit, elle est juste, elle est touchante, elle est vivante, elle est drôle, pas vu au moment du tournage des essais. Donc on va lire. Et puis, la scène, quoi. Faut bien faire quelque chose. Moi je vois des essais avec des morceaux de bravoure. Fais-moi une impro je sais pas, une autre scène, un autre film, ou une impro sur la peur. Vas-y. Non, c'est montre-moi si tu peux être le personnage, montre-moi même pas, surtout montre rien, mais essaye de allez, essayons de travailler pour voir si ce personnage-là ça peut être toi et qu'est-ce que tu peux donner au personnage, fais un cadeau, tiens, allez, voilà, essayons. Délicat, c'est super délicat, cette position de juge est horrible, quoi. Mais vraiment horrible. Moi, je...
Et pourtant, vous ne voulez pas du tout la déléguer. C'est vous vraiment qui faites les essais, qui voyez les 50 comédiennes.
C'est ma responsabilité, c'est moi qui suis à l'origine de tout ça. Je ne peux pas me défiler de ce moment difficile, que j'essaie de le rendre joyeux, parce qu'il faut que les essais, ça soit joyeux. Un jour, je fais. Vite fait. Un jour, je fais une pub. Et pareil, pub, je mentirais si je disais que j'y vais encore, parce que d'abord, j'en fais quasi pub, et je dois en faire une tous les deux ans. Des trucs qui me plaisent à faire, comme ça. Qui font gagner du fric, comme ça, je peux me permettre de prendre du temps entre deux films. Et chaque fois, je fais une pub et je suis au casting. J'étais au casting. Des
bêtes.
Ah ouais, 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 je voulais que ce soit bien y croire, c'est toujours des morceaux de bravoure, des petits morceaux de comédie et tout. Et je suis dans le studio de casting, il y a la salle d'attente à côté, et j'ai toujours dit au directeur de casting, tu me fais pas venir des gens qui attendent pendant des plombes et tout. Donc voilà, on prend des rendez-vous,
quart d'heure,
20 minutes, et comme ça on a 20 minutes, on peut discuter 5 minutes avant, 3 minutes après, et puis on a un peu de temps pour travailler. Et ça se passe mal ce jour-là. C'est normal. Je suis un peu fatigué parce que je vois que c'est pas terrible. Quoi. Et je sais pourquoi c'est pas terrible. C'est pas terrible parce que parce qu'il n'y a pas de fric pour faire cette pub. Quand on dit à des acteurs de venir faire de la réclame, il n'y avait rien à vendre. Hein. C'était qu'une scène de comédie. Mais quand même, quoi. Voilà, on va faire de la pub, on va être dans les écrans de pub.
Peut-être qu'ils ne présentaient pas le produit en disant de la pub.
Ah non. C'était, ils parlaient, ça, je le fais pour. Non, il faut qu'il y ait un truc à défendre, qu'il soit parallèle, qu'on vend autre chose, quoi. C'est une petite scène de vie. Mais bon, il n'y a pas de sous. Donc les agents de machin, ils disent attention parce qu'il y a trois ronds pour le faire, c'est-à-dire que tu ne vas pas être payé très bien. Donc, ce qui arrive, il y a des gens qui viennent gentiment, et aussi avec un petit peu pour moi, parce qu'ils se disent ah, tiens, on va se rencontrer, peut-être que ceci. Et c'est le cas d'un copain qui est Emmanuel Courcol, qui est venu mon co-scénariste. Grâce à cette rencontre, on a écrit trois films ensemble, il joue dans tous mes films. Et lui, il vient, parce que voilà, il a besoin de croûter, quoi. Et il est dans la salle d'attente, et moi, je finis avec le mec d'avant, là, je le laisse partir, et j'ai un coup de téléphone du producteur de pub. Il me dit, alors, ça se passe bien, ton casting? Je lui dis, mais non, ça se passe pas bien. Comment tu veux que ça se passe bien? Il n'y a pas de rond pour faire ce truc-là. Je lui dis, j'en ai que les tocards. C'est normal, il y a deux balles pour le faire. Voilà, qu'est-ce que on propose, je sais pas, je sais plus la somme, mais la moitié de ce que le mec devrait être payé, qu'est-ce que ça veut dire que ces agences à la con, ou ces clients à la con, qu'on prend un rond pour faire leur campagne. Moi, ça me gonfle de demander à des acteurs de venir faire de se mettre en jeu pour une réclame. Pour gagner si peu, je trouve ça nul. Alors évidemment, j'ai que les tocards. Et lui, il est dans la salle d'attente.
C'est peut-être des tocards.
Il est devenu vraiment, c'est un mec qui fait beaucoup de théâtre, du coup, tu dois le connaître, Emmanuel. Et il est venu là, un peu pour qu'on se rencontre et tout. Il entend ça, il se lève.
Il commence à se tirer.
Et il part sur la pointe des pieds, vers la porte. Et je raccroche, et j'ouvre la porte de la salle d'attente, et je dis bonjour. Il m'en parle encore. Je suis revenu, j'étais minable, quoi. Je me suis assis et là, on s'est rencontré là-dessus. Mais c'est tout ça pour dire que le rapport entre l'acteur, le réalisateur et ce qui transpire entre les deux, évidemment qu'il faut du talent, évidemment que. C'est très joli tout ce qu'on vient de dire. Il faut faire vivre le personnage, il faut y croire, il faut bosser aussi. Parler de Bouquet tout à l'heure. Bouquet, quand il finissait de parler aux acteurs, il disait, et puis vous savez quoi, tout ce qu'on vous propose, vous le faites. À partir du moment où c'est vous qui le faites, ça sera bien. Il faut bosser. Un acteur qui bosse pas, c'est pas un acteur. Voilà. Et c'est chaud, hein. C'est chaud hein, quand d'un seul coup on vous appelle et qu'on vous dit t'es libre pour faire trois semaines sur Plus belle la vie. Ah, mais c'est un sacré truc à décider pour un acteur. Parce que c'est du boulot, c'est du temps. C'est d'un seul coup un truc où on va se dire putain, il y a un an de travail, deux ans de travail, trois ans de travail dans un truc qui cartonne, tout le monde va vous voir. Mais c'est Plus belle la vie. Ça veut dire que. Ah ouais, ça veut dire que évidemment quand après.
On va faire autre chose.
On le sait qu'on veut faire autre chose. Si d'un seul coup on a été très bon, eh ben dans Plus belle la vie, il n'y a pas à tortiller, c'est comme ailleurs. Si on est très bon, hop, le personnage il va se mettre à exister. Et on va leur dire à la tripotée de scénaristes, Anne-France, là, elle est super bien, elle est vachement populaire. Vas-y, on la met en avant maintenant dans les trucs. Elle est d'un seul coup, la fille, si elle est très bien, elle va devenir la star de Plus belle la vie. Ça lui coupe les pattes. Elle ira, elle va jamais travailler au cinéma avec Jacques Audiard. Jamais.
Parce qu'elle est dans le tiroir.
Parce qu'elle est dans le tiroir, Plus belle la vie, le truc que... Hein. Mais d'un autre côté, si elle a besoin de bosser, et que. Ouais, mais si elle a besoin de bosser pour coûter, et qu'elle se dit, oh putain, je vais faire 15 jours là-dessus, un petit truc de rien, t'as envie de lui dire que tu sois pas trop bonne.
Mais oui, moi c'est les chevaux.
Mais dans beaucoup de cas, c'est surtout ce qu'on ne fait pas qui détermine une carrière.
Ouais.
Et c'est terrible, ça vaut pas. Je ne ferai pas ce truc. Elle dit, oui, mais tout le monde va te voir, tout le monde va te voir. Oui, mais je ne peux faire jamais faire ce que je veux faire.
Il faut s'en foutre, il faut travailler. C'est là, c'est vraiment... Il faut s'en foutre, il faut travailler.
Donc on peut comprendre tout ce qui passe, ici en France.
Après, son jugement à soi, il faut que le truc soit... faut qu'on s'y retrouve. Il faut que... faut qu'on lise et qu'on se dise... ah ouais, tiens... comme tu disais tout à l'heure, c'est toi qui dis ça, le jugement. C'est un jeu. Il faut prendre comme un jeu. Ouais. Allons-y. Et puis voilà, il faut surtout, je pense, travailler pour pouvoir gagner sa vie avec ce métier. Et donc permettre de pouvoir continuer à le faire en espérant un jour faire des belles choses. Voilà. Mais, je sais que c'est bon. Mais,
Il y a des questions ? Non, mais il y a un monsieur qui a levé la main, là, le monsieur.
Non, est-ce que vous, personnellement, vous prendriez quelqu'un de plus belle la vie?
Ah ouais. Ah, bien sûr. Ah oui, parce que moi, j'ai jamais regardé plus belle la vie de ma vie. Donc, je ne sais même pas si c'est bon ou pas. Je regarde pas la télé. Ça m'intéresse. Jamais. Voilà, c'est pas un jugement de valeur. C'est que j'ai autre chose à faire de ma vie que de me m'asseoir et de regarder un truc dans mon salon. Donc je regarde pas la télé. Donc déjà ça commence comme ça. Et puis deux, moi encore une fois, quand je demande à un acteur de venir pour un rôle, si on me dit
il a fait ci,
je peux même pas voir les CV, les machins, les trucs. Le pire que je connais, c'est les bandes démos. Je suis sûr que parmi vous, et je vous jette pas la pierre, il y en a des palanqués contre les bandes démos. Les bandes démos, c'est...
Qui a une bande démo?
Je sais bien qu'il y a tous ceux qui la lèvent pas, la bande.
Il faudrait les appeler des bandes achetées.
Mais oui, il faut mieux avoir fait un très beau court-métrage de 10 minutes, et c'est que ça tombe. Parce que là, d'un coup, on suit un personnage, une dramaturgie, un truc et tout. Et là, on se dit, ah merde, vachement bien. Moi, j'ai vu un comédien arriver un jour aux essais, comme ça. Mais comme ça. Seulement, je l'avais vu dans un truc où il était, mais absolument formidable. Mais formidable, quoi. Un personnage inouï, créé, toute pièce. Vraiment une compo, quoi. Mais vachement bien. Je l'ai vu arriver tremblant comme ça. Il était pas bon du tout, quoi. Il était malheureux comme les pierres, je voyais. Il était pas à l'aise. J'ai dit, calme. Je savais que, avec ce que j'avais vu pour ce personnage-là, j'ai dû faire le truc. Je t'ai vu, ça suffit. Je t'ai rencontré, je vois que tu paniques. Pour moi, ça veut dire que c'est génial. Si tu paniques, ça veut dire que tu mets ce métier, l'envie de le faire. Là, maintenant, il va falloir que quand on arrive sur le plateau, tu t'en foutes un peu. Le premier jour de tournage, c'était une comédie, c'était tenue correcte, exigée. Et le mec, le premier jour de tournage, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Et je ne sais pas quoi faire. Je ne trouve pas. Je suis pris dans un truc qui pleut dehors. Il pleut. On fait pleuvoir. Il y a la douche partout.
En plus, c'est la pluie qui coûte cher.
En plein Paris, la nuit, avec les gens tout payés et tout. Les tout il y a quoi? Cher. Lourd. Gros tournage. Et lui, il a juste un petit moment là-dedans, dans cette scène-là, et le lendemain, et le jour d'après, il a des scènes tunnels. Et je le trouve, il en fait des caisses, il est pas bon. Mais bon, je me dis, oh, après tout, c'est un petit plan de rien, je laisse courir et tout, mais je m'angoisse. Et le lendemain matin, à 9h, dring, mon téléphone sonne, et c'est lui. Il me dit, je t'ai pas bon hier. Je dis, ouais, c'est vrai, je peux te le dire franchement. Terrible, je sais pas comment on va faire, on va trouver le truc. Il me dit, non, mais ça y est, bouge pas, j'ai un le scénario, j'ai compris. C'est une comédie, j'essayais de faire rire. J'ai essayé de faire rire.
Foutu. Tu faisais l'intéressant.
Mais c'est pas moi qui l'ai vu, c'est lui. Et donc après, il l'a joué droit, comme si c'était un drame. Quoi. Voilà, super. Une comédie, ça se joue comme si on faisait un drame. Quoi. C'est, ou alors, c'est un truc très mal écrit que le personnage fait de pitre. Excusez-moi, je l'ai pas dit.
Oui, oui.
Sur le premier film, c'est simple, c'était Thierry Herbogast, on tournait à Roissy et c'était impossible à éclairer. Il y avait, pour aller de l'autre côté de la fenêtre, là, mettre un projecteur, et il fallait faire 4 km à pied.
Monter une nacelle.
Et tout un bazar et les trucs qui ne marchaient pas bien parce que les interférences partout. Donc lui, il était tout le temps avec les électriciens pour leur parler et je faisais donc la mise en place tout seul. Et puis quand il arrive, je lui dis, bon, alors voilà, tu pars de là, tu fais ça et tout, mais oulala, trop compliqué, dépêchons-nous, cadre-le, et puis on va voir sur la vidéo si... j'ai commencé à cadrer comme ça, et puis après, bah, je peux lâcher la caméra, et après, bah, quand je fais un film, je dis au chef hop, c'est moi qui cadre, puis c'est tout. Puis voilà, non mais on est... Il y a beaucoup de réalisateurs qui cadrent.
Est-ce que vous avez déjà vexé un acteur ?
Ça sert à quoi ?
Non, mais...
Sûrement. Mais sans le vouloir, hein. Ouais.
Non.
Pas volontairement.
Mais sur le plateau ?
Ouais.
Ou en dehors du plateau ? Parce qu'en dehors du plateau, oui.
Et sur le plateau, sur une scène,
ça doit bien arriver.
Oui, je pense que ça doit arriver quand on n'arrive pas soi-même à faire passer quelque chose et puis que, bah, évidemment, on rejette un peu la faute sur l'autre, on ne peut pas seulement se mettre des coups de marteau sur la tête.
Mais tu dis ça parce que tu as vécu des choses ou bien...
Ouais, une fois en particulier, c'était avec l'actrice qui avait sa méthode, une méthode maximale, qui refusait un petit peu de se diriger sur moi parce que moi aussi j'avais peu d'expérience, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Mais je pense que c'est un problème de communication, je vais manquer de tact. Et
c'est
quelqu'un très sensible déjà.
Et
alors, du coup, vous
n'avez
pas été possible du tout.
Non, non, mais moi j'ai eu une comédienne qui pleurait tout le temps. C'est. Elle avait rédigé ça en système. En système. C'est-à-dire que c'était un film où il y avait du maquillage parce que c'était un truc qui se passait dans un endroit un peu en représentation où les femmes sont censés être maquillés, donc le maquillage était vraiment là, quoi. Et c'était une demi-heure de maquillage, minimum. Et à un moment, je vais la voir, je lui dis, quand tu rentres là, tu le cherches, et j'y crois pas. C'est-à-dire que quand tu rentres, je veux vraiment que tu le cherches. C'est-à-dire que toi, tu sais très bien qu'il est pas là. Mais elle le sait pas, donc quand tu rentres, cherche-le vraiment. Et il y a 200 personnes, donc... prends le temps, tout ce que tu fais, de temps en temps, tu te rejoins, et vraiment tu le cherches, mais jette pas juste des regards comme ça. Je veux sentir que tu le cherches. Voilà, fais pas non plus ça. Simplement, cherche-le. Voilà. Et elle me dit, mais c'est ce que je fais. Je dis, non, pas ce que tu as fait la plus avant. Donc voilà. Et leur maquillage ruiné. Et là, les filles, elles me disent, c'est une demi-heure. Après ça, terminé, tu ne peux plus rien lui dire. C'est à chaque fois que tu as le meilleur emmené. Donc voilà, si tu veux, le seul truc que je me suis vengé le soir.
Si, on peut vexer, ça m'est arrivé de vexer pour des questions d'esthétique sur une comédienne qui est pas mince. Mais qui est pas. Enfin, je veux dire, elle est pas mince.
C'est une remarque physique, moi, c'est
voilà,
ça.
C'est physique. Et donc, le costume ne lui allait pas, parce que le costume ne va jamais, évidemment, dans ces cas-là. Et son rôle n'était pas qu'elle était une sylphide, ni qu'elle devait être top modèle. C'était une maman, elle n'a pas besoin d'être particulièrement maman. Et donc, il a fallu lui dire que non, le costume, on ne le changerait pas. Et que oui, elle était un peu forte dans son costume, mais que finalement, ça allait bien. C'était ça. Et bien ça, c'est quelque chose qui l'a vexé. Et ça, ce n'est pas un problème d'acteur. Ça. Et ça, ça arrive quand même assez souvent.
Surtout qu'on a parlé de plein de choses, mais on n'a pas parlé de... Évidemment, moi, toujours dit l'ego des acteurs, mais évidemment qu'ils ont un ego surdimensionné, sinon ils ne feraient pas ça. C'est l'histoire de la poule et de l'œuf. C'est est-ce que l'ego, ils l'avaient avant et c'est pour ça qu'ils sont devenus acteurs? Ou est-ce que c'est parce qu'ils sont devenus acteurs que d'un seul coup, comme le seul moyen de fonctionner, c'est d'avoir un tel ego, ça leur a un peu hypertrophié l'ego.
C'est comme l'exhibitionnisme. Si on n'a pas un peu d'envie d'avoir sa gueule sur le cul des autobus, de pas être acteur. Mais c'est aussi de dompter ça. C'est le combat permanent d'acteur avec son exhibitionnisme, le capotinage dont on parlait tellement.
Et la notoriété.
Voilà. Alors à ce moment-là, c'est un combat sans fin, mais c'est le vrai combat. Parce que sans ça, on ne peut pas être acteur, mais s'il y en a trop, on est un carotin, on est un cachetonneur. Voilà. Alors, c'est ça qui crée cette corde raide, parce que l'acteur qui réussit à mettre son exhibitionnisme comme un fil de feriste sur le fil et rester là,
combien il y en a?
Et combien il y en a? Pas beaucoup.
Combien il y a d'acteurs qui font ce métier simplement, font de nous-mêmes, on peut se poser la question, pour être juste connu? Évidemment qu'il y a ce problème de reconnaissance que tous les êtres humains ont. Évidemment, mais c'est pas être reconnu. Reconnu, c'est formidable. Les gens commencer à faire ça, simplement parce que voilà, un rêve de gosse d'être connu. Et après ça, t'attends, mais cher. J'en ai côtoyé un paquet des vedettes avec qui on ne peut pas se balader dans la rue. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, eux, se balader dans la rue. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas mettre le doigt dans leur nez. Comme ça, ils n'ont pas le droit. Personne n'a pas le droit.
Sandrine Bonnet avait deux dans son nez.
C'est écrit dans le journal le lendemain. Il faut en aller avec le bon homme. Non, mais c'est un truc de malade. C'est-à-dire que ce plaisir d'être reconnu et l'angoisse que ça. Enfin, je sais pas pouvoir aller acheter son pain comme un inconnu, mais c'est un enfer. J'avais fait il y a très longtemps un film de Molinaro qui s'appelait Palace avec Auteuil et. Claude Brasseur. Claude Brasseur, c'était une star à l'époque. Il sortait de, je sais pas quoi, la boum, machin et tout. C'était la star, mais énorme, quoi. Puis il avait 45 ans. On tourne à Paris pendant 3 semaines et après on va à Berlin. Et pendant 3 semaines à Paris, on est en extérieur, dans la rue et tout. Et là, la régie n'arrive pas à contenir les gens qui viennent le voir très sympathiquement. Bonjour, monsieur Brasseur, un petit autographe. Salut Claude, le fameux salut Claude, qui horripile un peu. Et, salut, comment tu t'appelles toi, Germain? Salut Germain. Voilà, enfin bon, voilà, tout signé, autographe, une petite photo, machin. Et là, le Brasseur, horrible. C'est-à-dire que sa notoriété, là, c'était un moment de sa vie, il ne pouvait plus. Donc il a envoyé chier tout le monde. Il disait à la régie, mettez un cordon sanitaire qui m'emmerde pas, c'est con. Il en était là. Ben, presque on peut comprendre tellement il avait été. Et puis on part à Berlin. Personne. Et ben, moi je disais à 3h du matin, ivre mort, à cause de ça, sur le trottoir, en train de dire, I am Claude Brasseur, fresh.
Mais c'est tragique hein, ce qu'ils vous racontent, c'est pas drôle du tout.
Le tragique est drôle.
Il y a des méprises comme ça. Moi, dans mon théâtre, j'ai fait venir faire la synthèse avec Plus belle la vie. Celui qui joue l'avocat dans Plus belle la vie.
Je sais pas
si tu joues Alexandre. Et donc, il jouait Premier amour de Beckett. Attention, Premier amour de Beckett, c'est pas Plus belle la vie. Hein. c'est en plus, selon les indications de Beckett, il n'y a pas un poil de mise en scène. C'est interdit. Donc il est droit comme un i, il balance son texte pendant une heure avec deux projecteurs. Un pour faire le compte, un pour faire la face. Et donc, je remplis le théâtre. Je suis vachement content. Premier amour de Beckett, le théâtre. Putain, la vache. La déception après. Parce que plein de minettes étaient là. Hein, les teenagers étaient tous là. C'était formidable. Super, on a fait un super travail d'action culturelle. On a réussi à mobiliser la jeunesse. C'est génial. Et la grande déception après, parce que c'était, bah oui, c'était lui, mais c'était pas plus belle l'aime.
Ouais, mais tu ne partais pas en cours de représentation quand même.
Non, mais quand même, ça bougeait. Oui, puis il y avait des autographes à la fin. Et d'ailleurs, à la fin, tout le monde sur le plateau, autographe, mais je savais bien que ce n'était pas pour Beckett.
Mais lui, comment, juste par curiosité, comment
il avait l'habitude. Il jouait avec ça. C'est-à-dire, on ne l'indiquait pas, il demandait à ce que ça ne soit pas mis sur l'affiche « Deux plus belles de la vie ». Parce que bon, Beckett, deux plus belles de la vie, ça collait pas tellement. Mais bon, j'avais quand même... On se disait que c'était bien de se faire savoir, quoi.
En parlant de Beckett, je montais à Londres et Don Juan de Molière, première Don Juan de Molière en anglais à Londres, avec Tom Conti qui avait eu tous les prix cette année-là.
Avec ce mec, c'était formidable.
Il est formidable, c'est un très grand acteur. Et donc, c'était l'événement parce que moi, lui, voilà, on a découvert. Qui s'appelait Lizzie Duncan, qui est devenue une des grandes superstars. Et à l'époque, c'était le début. Et comme dit, Tom était. Et je l'avais casté, comme on dit. J'avais vu 10 acteurs. Le producteur Michael Rodman, qui venait de faire Hamlet à New York, m'avait dit Tu viens faire le Don Juan de Molière. D'accord, mais moi je ne connais pas bien les acteurs anglais du moment. J'étais à New York depuis 10 ans, j'en ai pas à Londres. Et puis non, je vais les faire venir, tu rencontreras, mais je ne te dirai pas ce qu'ils ont fait. Tu vas découvrir 10 mecs pour jouer Don Juan. Donc il y a venu cet acteur, puis un autre acteur, tous impressionnants dans l'audition et tout. Et il arrive cette espèce de Al Pacino. Anglais, avec un accent un peu écossais, mais une voix, bon, et petit mec, et avec son espèce de truc de marin, de jaquette de marin, et on part, et il me dit, je ne savais pas que Molière avait écrit une pièce sur Don Juan, je connais Don Giovanni, et il commence à chanter Don Giovanni, un arrière d'opéra, comme ça, et je dis, oui, mais ce n'est pas l'opéra, c'est la pièce de Molière, voilà, il y a les traductions, là, je dis, c'est des traductions du 18e siècle anglais, c'est formidable, ça retrouve le truc. Ah oui, c'est ils ont traduit tout Molière, mais c'était les écrivains de la Restauration. Et donc, l'assistante du théâtre monte, elle me dit, monsieur Conti, je suis désolé, mais monsieur Rodman, monsieur Hawking, qui est devenu après le patron du cinéma en anglais, on me demande, pourquoi vous passez tellement de temps avec ce monsieur-là? Parce qu'il est intéressant et qu'on parle et que je vois qu'il voudrait bien jouer Don Juan, mais voilà, je lui dis écoutez, voilà, puis j'ai rencontré deux, trois acteurs, et le soir, les deux producteurs m'appellent, alors, qu'est-ce que tu as fait à Tom? Je dis, j'ai rien fait à Tom, c'est lequel? À celui qui ressemble à Al Pacino, ben, il est très intéressant, mais je ne sais pas très bien si pour Don Juan, il y a, chose, mais je trouve, il voudrait déjeuner avec toi. Oh, bon, d'accord, je sais toujours pas qui c'est. Donc, ce monsieur, le lendemain, dit, j'ai lu la pièce, c'est formidable. Bah, je dis, oui, c'est formidable, c'est Don Juan de Molière. Et je me suis dit, est-ce que vous voulez que je fasse le rôle? Je dis, parce que si vous n'êtes pas sûr, pas besoin d'aller déjeuner. There's no point in going to lunch. I said, yes, you can walk one at the park. He said, okay, let's go and have lunch. Donc, il y avait Koulou Koutis, le mec qui mettait l'argent, David Hawking, qui après, voilà, et Michael. Et j'apprends que c'était l'acteur de l'année. À ce moment-là, c'est l'année, il avait fait le Non, c'était avant Mishima. C'est la dame qui avait fait les Glittering Prizes, la télévision, et le Flaubert, Madame Bovary, enfin, il était devenu. Et alors, Time Out a écrit un article, ces deux mondes vont se rentrer dedans, l'autre qui est venu d'Amérique, le scandale, Tom, parce qu'il était célèbre pour envoyer chier les... Il a envoyé chier Altman à un moment donné, quand il avait fait un pulter avec lui. Il était redoutable avec les metteurs en scène. Peter Hall du National m'appelle and dit « You never get along with Tom, he's a monster, he hates directors, il hait les metteurs en scène. » Je dis « Bon, ben, c'est pas le cas, là. » Donc, une première répétition, ça se passe très bien. Deuxième, et puis l'acteur qui jouait Sganarell regardait quand il jouait, tu sais, mais plus en tant que Sganarell. Mais regardez pourquoi lui et pas moi. Pourquoi lui, il a tous les prix et moi pas. Et en plus, c'était le copain de Conti. Donc, après trois jours de répétition, on se marche les cheveux. Donc, j'appelle Rodman, je dis « Michael ». Après, il a dirigé Dustin Hoffman dans « Mort d'un commis voyageur », Michael. Je dis « Michael, je peux plus ». Ah, il me dit que je suis heureux parce que Tom vient de m'appeler, il ne supporte pas d'avoir un spectateur. C'est terrible, tu vois, un acteur qui est spectateur de son partenaire. Donc on a trouvé un autre acteur et...
Vous avez viré Sganarell, vous avez trouvé un autre.
Oui, on a eu la chance de trouver un autre, mais c'était from the north. Tom est écossais. Et il dit, he's a fucking knucklehead from Manchester. They're slow. Ils sont... Et on commence à travailler, et à un moment donné, on travaille le fameux truc du tabac. Et je dis, Roger Sloan, très bon acteur, mais vraiment... Roger, you know, pick it up, you know. J'avais vu le donjon de Molière de Villars, c'était extraordinaire. Mais il assistait, Tom était là. Roger, pick it up, do it. You don't talk to me like that, you bloody mother of the freaking goddamn director, American. You know, we in England, we don't talk to actors like this and all that. Yeah, but the fuck.
Bon, il
l'a
mal pris, quoi.
Et Tom était là, fumait son petit cigario, et tout à coup il avance vers lui, et il dit, Roger, this Mr. Corney here is a nice fellow, you know. Il est sympa, mais il t'engueule pas, il est passionné, he's passionate. Because if you want to get angry, et l'autre dit, ok, I'm quitting, et il sort, et il dit, hey Tom, en quelques jours, nous allons passer deux Sganarell. Qu'est-ce qu'on fait là? Parce que le combat devait normalement être entre Tom Conti et moi, et pas avec les Sganarell. Et tout à coup, on regarde tous les deux au même moment. Roger Sloman a laissé un de ses souliers. Il est sorti pour partir, mais il a laissé un de ses souliers. C'était des souliers de ballerines. Et Tom s'est dit, don't worry, he's coming back.
C'est son rayon, c'est ça.
Il est revenu, il a dit ok, we won't, oui, voilà, et ça s'est passé. Voilà, et un jour, Tom est arrivé avec une idée formidable. Il dit, on va faire la scène sur la plage avec la musique de Stravinsky, de Tchaïkovski. Ils vont danser sur la plage avec Lindsay Duncan et la cousine de Jane Birkin qui a fait quelques films après, et Tom, dit, qu'est-ce qu'il est allé chercher là? Ça commence. Donc il arrive, il dit, ok, you ok for the dance? Oh, c'est ok de faire la danse? Ben, je dis, c'est pas très bien la scène de Molière de faire la danse, moi j'ai rien contre, mais... Et il me dit, on va te le montrer. Et il commence, ils font des pointes. C'était cucu à la praline, je dis, comment je sors de ça? Tom, it's very funny. I mean, ah, it's good, huh? He said, yeah, but they're going to laugh at you. They're not going to laugh with you. Ils vont rire de toi. Il m'a dit, OK, on le fera pas. Et c'est tout. Il n'y a plus une discussion. Et un jour, il m'a dit, you're a bloody great director. You know why? I said, no, I don't. Et il me dit, because you don't ever talk about the character or thing or that. You're telling me this and that. Et pourquoi? Et voilà, et comment? Et ça a été un rêve. Ça a été un rêve, ça a été un succès, si j'ose dire. Ça a été le lancement de Lindsay Duncan, qui après est devenu une des plus plus extraordinaire sur scène, parce qu'elle fait beaucoup plus de scènes que...
Robert, excusez-moi, voilà. Je vous coupe, parce qu'il y a des questions dans le public, parce que voilà. Autant...
Moi, je me demandais ce qui vous guidait pour diriger. Vous.
Ah non, mais il est déjà en moins 5, là, attends.
Qu'est-ce qui vous guide, vous, pour diriger?
Je ne sais pas. Honnêtement, moi, j'étais acteur.
Le scénario
Non, c'est une envie d'être avec certains acteurs sur une durée. Sur plusieurs pièces en même temps, mais... Une fois à la fois, ça ne me plaît pas beaucoup. Je suis un homme de troupe. Et de jouer les différents trucs avec des personnages différents, dans des auteurs différents, beaucoup ça, je ne sais pas, qui est impossible à faire. Si ça ne marche pas, on ne peut pas. C'est Jean-Pierre Thibaudat qui avait écrit dans Libération quand Cordier monte chez Parr, ça marche. Quand les autres le montent, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi des Thibaudat, mais... J'en ai la preuve. Costaz a dit pareil, moi non plus, je ne sais pas. Il y a une affinité et il y a des auteurs qui ne sont pas faciles à monter, mais Shakespeare, si tu l'écoutes, il va te porter. Il y en a d'autres, il faut vraiment trouver quelque chose qui est impondérable. Voilà.
Raconter une histoire
et avec des gens. L'histoire.
Parce que c'est la première clé. On a envie de raconter une histoire avec des gens. On a envie de faire du théâtre, on a envie de faire de jouer quelque chose. Mais raconter cette histoire-là. S'il n'y a rien à raconter, on se regarde dans les yeux. Non, il faut qu'on raconte quelque chose.
Et le cinéma, c'est un peu différent parce que en France, vu que voilà la nouvelle vague que j'aime beaucoup par ailleurs, un petit spectacle, puisqu'elle a supprimé les scénarios. C'est-à-dire que ça n'existe plus quoi. Un métier, il y en a 5. Et donc jamais, moi par exemple, on m'a jamais proposé un scénario écrit par une envie d'un vrai scénariste, d'un film, comme un metteur en scène de théâtre, eux, on leur dit tiens, est-ce que tu veux monter un Pinter ou un Excel ou... Non. C'est-à-dire que nous, on est là à faire ce burnout pendant 2 ans, à d'abord passer 6 mois et se dire quelle putain d'histoire je vais raconter maintenant, que je sors les CV du film d'avant, et qu'on a oublié ce que c'était que de tenir un stylo et qu'il va falloir écrire un scénario de 100 pages, et que ça se tienne, et que ça soit bien et tout, et qu'on a tout à faire. Et que quand on a passé un an, à 6 mois. Là, j'ai commencé un scénario au mois de... Allez, janvier. Voilà, 6 mois. En juin, j'avais 60 pages. Un matin, je me suis levé, j'ai lu 60 pages. Je me suis dit, t'as envie de le voir, ça, au cinéma? Il y a un truc qui te manque là-dedans, il y a un truc qui te... Non. C'est une nécessité de le faire? Non. Alors, faut le faire, oui.
Voilà, c'est tout.
Je dirais. Et je me suis dit, allez, quoi? Je vais aller rechercher une vieille idée, un truc par défaut. Par défaut, en me disant, c'est pareil, tu as travaillé 3, 4, 5 mois là-dessus. Et puis, il va se passer quoi? Ça va pas te plaire. Mais bon, par assiduité, ça y est, je suis dedans et je suis bien et ça me plaît. Quand on a fait tout ce taf-là et qu'on est arrivé, pour répondre à votre question, quand on est arrivé au bout d'un an d'écriture et qu'on l'a le putain de scénario, si on a un peu de parce que moi je suis le pire censeur, hein, si on a un peu de jugement et qu'on trouve ça bon, c'est pas une envie de le faire, c'est une obligation. Voilà, c'est-à-dire que toi t'as jamais eu l'obligation de monter une pièce d'Ibsen, elle existe. Pour monter la pièce de quelqu'un d'autre, même d'un jeune auteur contemporain. Et quand t'écris ton truc à chaque fois toi-même, parce que t'es obligé de le faire. Mais putain, c'est pas des comédiens dont on a besoin en France, je suis désolé de vous le dire. C'est des auteurs, quoi. C'est des auteurs.
Mais ça, Jean-Gilles le sait bien.
Donc, écris. Oui.
Monsieur, là, monsieur. Allez-y.
Philippe Lurèche, là, parce qu'on disait que le. Choisir Une fois que vous avez décidé du comédien au casting, qu'est-ce que vous faites exactement jusqu'au moment du tournage pour préserver à la fois la fraîcheur du tournage, mais quand même bien préparer les comédiens au tournage?
On a déjà pas mal bossé au casting. Hein. La scène, là où les scènes qu'on a travaillées, on les a super bien travaillées. Donc on a passé, une demi-journée, voire une journée ensemble, donc on se pige un peu, on est content, on va le faire, on est content que ça se passe bien. Voilà, il y a ce truc qui rôde, après on se revoit pour les costumes et tout. Puis moi ce que j'aime bien faire, puisque c'est vrai que je suis pas rentré dans le truc, mais j'y pense, des répétitions longue durée et tout, avec toujours la crainte de me dire, ça c'est mon vieux truc de cinéma, j'ai fait tellement de films, moi. Quand j'étais technicien, hein, puis après réalisateur, je commençais à en avoir un paquet de films au compteur, plus comme ingénieur du son, comme réalisateur, parce que à jeune âge, j'ai 3 parents, alors vous voyez, c'est de me dire, je veux perdre la fraîcheur, et tout, machin. Donc ce que je fais, obligé, c'est, pour essayer d'avoir cet esprit de troupe là, lecture.
À la table ?
Lecture, on se trouve à un bel endroit, genre voilà, un truc comme ça, là, on vire tout ça, on se met une grande table, on met tout le monde autour, tout le monde vient, les techniciens, hein, tout le monde et tout, ouais. C'est une petite semaine ou 10 jours avant le tournage, et, ou 3 ou 15 jours avant le tournage, puis on se fait un petit coup en même temps, comme ça, tout le monde se rencontre, même ceux qui ne vont pas avoir de scène ensemble et tout, et puis voilà, on se fait une lecture, moi je fais les 10 escaliers, et puis hop. Chaque acteur fait son rôle et on le fait comme ça. Il se passe des trucs. Hein. Des fois, on se prend des sphères. Hein. Je me dis, il n'a rien compris au truc. Catastrophique. Et puis, pour un film, j'avais besoin d'un acteur qui était un acteur. C'était compliqué. C'est toujours pour cette comédie, la tenue correcte exigée. Il y avait le mari de Zabou qui était censé être le gouverneur américain, mais qui avait été élevé, qui avait fait un collège suisse. Sa mère était française. Bref, il parlait français, mais avec l'accent. Bon. Je cherchais donc un anglo-saxon qui parle très bien le français et qui est un bon acteur. J'ai vu tout ce que Paris comptait de porte-flingue pour M6. Je n'ai jamais trouvé. Je me disais, putain, ce rôle, il est pas, il est foutu, il est nul, quoi. Personne n'y arrive, quoi. C'est tellement particulier. Enfin, c'était pas bien, quoi. Puis je trouve un mec qui vient, qui repartait, qui vivait à New York. Et voilà, allez. C'est moins pire, disons, pour le rôle. Mais moi, je me dis, c'est pas les acteurs qui sont pas bons. C'est le texte qui a un problème, quoi. Vraiment, il y a un problème, quoi. C'est dur à jouer, ça marche pas. C'est vraiment une comédie, en plus. C'est un truc, fallait y aller, quoi. Sans en faire trop, hein, jamais. Mais voilà, fallait l'incarner. Le mec donne machin, là, je sais pas quoi, qui était gouverneur de l'Iowa, marié avec l'autre soldat de Zabou. Bizarre, quoi. Et quand on fait la lecture, j'appelle ce comédien aux États-Unis et je lui dis voilà, salut, on fait des essais, costumes, donc tel jour. Ça serait bien si tu venais la veille parce qu'on va faire une lecture. Et le mec, il me dit c'est pas dans mon compte. Gentiment, hein, très gentiment, mais à l'américaine. Ah bon, le 13, je peux pas faire le 13, mais c'est pas dans mon contrat, moi. Le 13, c'est pas dans mon contrat. Ça rigolait pas, quoi. Bon, t'es sûr que tu peux faire un effort? Ah non, désolé, je suis pas encore et tout, bon, voilà. Et puis j'avais un acteur que j'avais pris en casting pour faire un rôle de rien du tout. Hein, parce qu'il y avait, ça commence dans un tribunal et lui, il faisait le juge. Et il avait à dire monsieur le avocat général. C'était tout ce qu'il avait à dire. Monsieur le général, et le mec adorable, il vient à la lecture parce qu'il a envie d'en faire partie et tout. Et il fait, ça commence comme ça. Monsieur le général, je me demande si c'était même pas la première réplique du film. Et après ça, il est là comme ça, et il est là, il est bien, il va tout le monde. Et à un moment, il faut incarner ce mec-là. Et moi, je fais les 10 escaliers déjà, je dis, Philippe, tu veux pas prendre le truc? Hein, quoi, oui? Il prend le truc, et comme un musicien qui va déchiffrer une partition qu'il n'a jamais lue, il me fait une lecture d'instinct comme ça. J'aurais tout le monde tendu derrière, quoi. Tout le monde tendu, mais tendu. Et de le faire comme ça, sans en faire trop. J'ai été juste génial. J'ai fini, je lui ai dit, tu parles anglais, mais pas un mot. J'ai dit, mec, je m'en fous. Je peux pas perdre ça sur une comédie. Un mec qui a cette espèce de sens comme ça, de personnage qui l'amène là-dedans, j'ai eu la réaction de la table. Et puis moi, j'étais plié en deux, quoi. Le texte, pour la première fois, je l'entendais bien. Et je lui ai dit, tu parles pas anglais, donc t'es libre des dates, de tout. Il dit, ah, tout à fait. Donc, je lui ai dit, tu me donnes un petit quart d'heure, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé l'hôtel New York, il a décroché, je lui ai dit, salut, c'est Philippe. Il me dit, on est 13, me dis rien. T'as fait la lecture, c'est un autre que moi qui ai lu. Il est bien. J'ai dit, ouais. J'y ai pensé, je suis le roi des cons. Tant pis pour moi, c'est de ma faute. J'ai dit, non, mais on va te faire un dédit, t'inquiète, j'en veux pas. J'avais qu'à venir. Je l'ai raccroché. Chapeau aussi. Mais du coup, t'as fait le film, quoi. Il y avait 25 jours de tournage, quoi. Lecture. Truc magique, quoi.
Ah, d'accord, mais après, on arrête, parce que. Allez-y.
Moi, je voudrais vous remercier pour la qualité du plateau et de vos interventions, parce qu'en effet, vous connaissez un peu les acteurs. Vous avez compris comment se débrouiller avec cette patte incertaine, fragile, capricieuse éventuellement, et ça c'est assez rare. Je voudrais vous donner quand même le contrepoint de ce qui se passe avec tous les autres réalisateurs, avec tous les autres metteurs en scène, et pire, avec les castings. C'est pas mieux. Finalement, ce que ces gens n'ont pas compris, c'est qu'effectivement, ils demandent un résultat, alors que le travail de réal, du metteur en scène, c'est d'aider à faire l'opération. C'est comme ça qu'on est. C'est ce que disait un de mes maîtres, qui était Blanche Salon, et qui disait ça. Voilà, faites l'opération. C'est effectivement ça, son alchimie, et c'est ce qui résume en creux de vos interventions. Parce que faire des choses comme vous le faites, assister au casting, c'est le charme. Maintenant, on ne rencontre plus. Quand j'ai commencé ce métier, que j'ai arrêté longtemps, mais quand j'étais jeune à 16 ans, on rencontrait les metteurs en scène dans les distributions. Ça n'est plus le cas. On a affaire aux castings qui sont des bœufs, qui vous reçoivent dans une salle petite, mal éclairée, avec un mauvais son, qui vous filment avec une caméra de poche de merde. Vous n'êtes pas éclairé, vous ne sentez rien, ils vous balancent une réplique n'importe quoi. Et le pire, parce que c'est la phrase fatale que je ne vous conseille pas aux réalisateurs de prononcer, c'est « faites-moi rire ». Quelqu'un me dit qu'à fuyer. Et quand on demande ça, fuyer. Et moi, je l'ai entendu, je peux vous dire, c'est un casting de grand film, il n'y a pas longtemps. C'est affreux. Et c'est effectivement diriger un acteur, c'est cas par cas, c'est individu par individu, situation par situation, rôle par rôle, et il n'y a pas de formule magique. Voilà. Ce que je voulais vous dire et vous remercier. Et sur un autre point aussi, parce que ça, c'est une grande rareté, ce serait bien que ce soit entendu par vous, c'est de faire des lectures et des répétitions. Ça se faisait. Il me semble beaucoup plus aux États-Unis, mais je répète.
Une bonne raison, c'est qu'ils n'ont tout récupéré dans le travail. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'arriver sur le plateau et de chercher.
Oui, voilà. Oui,
c'est ça. Quand ils font la route de Madison en 6 semaines, c'est parce qu'ils ne répètent pas. C'est parce que quand ils arrivent, ils sont prêts. Et pour ça, effectivement, on peut faire beaucoup de travail à la table et à la répétition, parce qu'on ne peut pas demander aux élèves. Voilà, allez, c'est décidé, prochain film. 4 semaines de répétition.
Bon, les gens, il est 10h10, on va dire que c'est un peu tard.
On va voir.
Merci beaucoup.
Gardez un sens de l'humour vis-à-vis de vous-même.
Sur vous-même.
Surtout. Ne prenez pas les choses personnellement.